et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débat Amcamgram. On est déjà à notre cinquième débat, donc je suis ravie. Pour rappel, ce format de débat, je l'ai développé depuis la rentrée du mois de septembre sur Amcamgram, puisque au-delà de creuser sur l'expérience d'une personne dans une entreprise donnée, là, l'idée, ça va être plutôt de croiser les expériences. Et c'est pour ça que j'invite deux personnes pour discuter et débattre d'un sujet de fond en lien avec l'account management. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de l'international. Entre guillemets, le sujet, ça va être comment, pour un account manager, gérer un portefeuille de compte à l'international. Quand on pense à ce sujet, on va penser aux différences de langage, on va penser au décalage horaire, voilà, des choses assez pratiques finalement. Maintenant, moi, je voulais plutôt prendre un peu de hauteur et me demander si au niveau stratégique, dans un contexte de fidélisation et de développement de compte au global, est-ce qu'il est pertinent de s'appuyer sur les méthodes plutôt locales pour ensuite construire son offre au global, ou au contraire, est-ce qu'il était plus pertinent de posséder un cahier des charges déjà bien défini au niveau du siège et ensuite, comme ça, le dispatcher au niveau des différents marchés locaux. Donc, pour m'accompagner sur ce sujet, j'ai invité deux trublions qui travaillent tous les deux sur un portefeuille de compte à l'étranger et avec chacun une méthode bien spécifique. Donc, je commence par présenter à ma droite Carlos. Toi, Carlos, tu travailles chez Evaneos, le spécialiste des voyages sur mesure depuis bientôt 6 ans. Tu as eu plusieurs casquettes au long de ton parcours puisque tu as ouvert différents marchés et donc participé à l'expansion internationale de Evaneos. Et aujourd'hui, ton challenge principal, ça va être la croissance de la marketplace Evaneos. Autrement dit, tes clients, ce sont des agences de voyage qui sont basées à destination, c'est-à-dire qui sont basées dans les différents pays. Et toi, tu vas utiliser une méthode que j'ai qualifiée de bottom-up, puisque tu t'appuies sur des relais locaux pour construire et ensuite distribuer l'offre au global, l'offre de voyage sur mesure sur la marketplace Evaneos. À ma gauche, Clément. Donc toi, Clément, tu as rejoint les équipes de Spix en début d'année. Pour rappel, Spix, c'est une solution d'apprentissage de langue étrangère. Et bien sûr, tu opères dans un marché, on le sait, très concurrentiel. Du coup, toi, ton challenge, ça va être d'accompagner les très gros clients des grosses entreprises, du coup, à former tous leurs collaborateurs dans le monde. Et pour ça, toi, tu vas t'appuyer sur une méthode que j'ai qualifiée plutôt de top-down, puisque en effet, tu vas déployer la stratégie du siège au sein des différents marchés, tout en t'assurant que la formation sera délivrée de manière parfaitement homogène au sein des différents collaborateurs en local. Et bien maintenant, messieurs, je vous laisse la parole et vous laisse vous présenter.
Bon ben, c'est à moi alors. Moi, c'est Carlos. Merci beaucoup, Darina, pour m'inviter à être là. Voilà, Carlos Ferrer, j'ai 34 ans, je suis originaire de Barcelone, d'où mon accent qui on peut sentir.
Oui, on entendait quand même un petit
ouais.
peu.
Hein. Ok, ouais, désolé pour ça. Bon, bah, grosso modo, c'est moi, j'ai plus ou moins 10-11 ans d'expérience dans le digital, surtout dans les online travel industry, qu'on appelle ça. J'ai passé 5 ans chez Holiday Check, c'est une OTA, Online Travel Agency, en Suisse germanophone. J'ai commencé là-bas avec des sujets d'internationalisation en tant que entreprise allemande qui essaye de s'internationaliser en Europe. Et après, depuis là, environ 6 ans, 5 ans et demi plus ou moins, je suis chez Evaneos, comme tu disais. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est une boîte française qui essaye de s'internationaliser dans des différents marchés, notamment européens. Et voilà, comme tu disais, Evaneos, belle réussite de marketplace français, aujourd'hui fait partie des Next 40. Et comme tu disais, elle met en relation des voyageurs, avec des agences de voyage qui sont partout dans le monde et qu'ils sont capables, grâce à ces connaissances et son forte expertise de la destination où ils sont, de proposer aux voyageurs européens surtout, de voyages sur mesure. Okay? Donc voilà. Grosso modo, c'est ça. Même si, malheureusement, bon, je vais quitter Evaneos à la rentrée. C'est passé super, super années, un bel succès. Quoi.
Et Carlos, c'est quoi ton plat préféré?
Ah oui, c'est vrai que, ah oui, mon plat préféré, bah, franchement, moi, je suis assez sportif, donc moi, j'aime beaucoup manger, mais au même temps, je suis assez sportif, donc il faut que je fasse attention. Et du coup, ça fait pas longtemps que j'ai découvert toute la partie lentilles et pois chiches et tout ça. Et franchement, c'est tout ce qui... Voilà, j'aime bien tout ça, quoi. Et du coup, je suis assez obsédé par les lentilles. Et j'aime beaucoup les salades de lentilles ou les pois chiches. Du coup, peut-être ça, ouais.
Délicieux. ok, ça marche. Merci beaucoup. Bah, Clément, je te laisse te présenter à ton tour.
Merci Darina. Donc moi, je m'appelle Clément. J'ai 31 ans. Et pour te raconter un peu d'où je viens, j'ai commencé mon parcours professionnel en Irlande, où j'ai travaillé pour Oracle. Puis je me suis rapproché du milieu RH avec Indeed. Et j'ai fait un retour ensuite en France, où j'ai travaillé cette fois-ci pour EF, qui propose des séjours linguistiques à l'étranger. Et pour finir, du coup, chez Speex, l'entreprise où je travaille actuellement, qui propose effectivement des formations linguistiques en 13 langues pour des grands groupes à l'international. Donc c'est vraiment intéressant puisque c'est assez différent de ce que fait Carlos, même si je pense qu'on a tous les deux une passion pour les voyages et pour les cultures étrangères. Puis mon plat préféré, désolé Carlos, mais je préfère les pizzas italiennes.
Voilà. Désolé Carlos, moi je vais me ranger du côté de
de Clément.
Je comprends aussi, hein. Je comprends très bien.
Ah oui, tiens, une petite question, c'est quoi votre destination préférée?
Ah, moi je dirais que j'aime beaucoup Lisbonne, au Portugal.
Moi, bah, je sais pas, je crois que j'aime beaucoup. Après, moi c'est vrai que j'étais à Madagascar il y a pas longtemps et c'est vrai que c'est assez spectaculaire.
Top. Eh bien, écoutez, au cours des prochaines minutes, du coup, on va voyager, on va parler interculturel, top-down, bottom-up, relais, sponsor et plein d'autres choses. Donc, c'est parti. Alors, donc, tout d'abord, comme je disais, quand on pense comme ça, à première vue, au challenge d'un portefeuille à compte manager à l'international, on va forcément penser aux choses un peu basiques, type les décalages interculturels. Et je voulais savoir, comment ça se traduit, vous, concrètement, dans vos métiers respectifs? Peut-être toi, Carlos?
Ouais, oui, alors ça, c'est un super sujet, c'est un sujet super clé pour Evaneos. Je crois qu'on a un mot-clé, par exemple, dans la boîte, c'est l'empathie, quoi. Donc, juste pour le contexte, c'est ce qu'on fait vraiment en tant qu'account manager, c'est nous, on accompagne nos partenaires, qui sont des DMC, Destination Management Company, qu'on appelle, sont des agences de voyage locales, comme on disait, on les aide à démarrer et optimiser son business en B2C. C'est-à-dire que normalement, ce sont des boîtes qui avant, des agences qui avant travaillaient qu'en B2B, et nous, grâce à Evaneos, on les accompagne ce démarrage ou à améliorer sa pénétration du marché B2C. Okay? Donc, pour les accompagner au mieux, ce changement assez stratégique, il faut bien comprendre les contextes particuliers de chaque agence et les contextes de chaque destination, quoi. Donc, il faut beaucoup s'adapter à ses besoins, les entendre, être empathique avec eux. Et du coup, quelques exemples ou quelques voies pour faire ça, ça serait, par exemple, comme tu disais avant, Darina, c'est s'adapter aux horaires de travail. Bah, il paraît tout bête, mais par exemple, nous, on a des account managers qui se focalise par région du monde, par région, et par exemple, notre account manager, les account managers qui sont pour la région Océanie, bah, du coup, bah, aussi malheureusement, il faut que, qu'il, que, que, qui travaillent beaucoup les nuits, quoi, pour s'adapter aux horaires de travail. D'un autre côté, l'outillage, les outils, toute la partie software, bah, en Chine, s'ils ont pas de VPN, ils vont pas avoir de Google Hangout. Donc, il va falloir s'adapter aux outils qu'ils utilisent. Il y a des gens qui utilisent que WhatsApp, que Skype, que, voilà, différents software, quoi. Et après, et bien sûr, encore plus important peut-être, c'est la partie la plus importante, c'est la compréhension des codes culturels, quoi. Finalement, on a affaire avec des partenaires qui sont vraiment partout dans le monde, qui ont des backgrounds culturels très, très différents, peut-être différents aux nôtres. Donc, voilà, il faut savoir comprendre ça, s'adapter à ça et bien, voilà, comprendre notre interlocuteur, quoi. Donc, par exemple,
Par exemple, quoi?
ouais, voilà, dans beaucoup de pays, ils ont beaucoup de mal à dire non, alors que tu expliques des choses, notamment quand on fait l'onboarding sur la partie B2C et comment répondre aux clients, voilà, tenir comment avoir une bonne relation avec les clients. Ils vont dire peut-être oui à tout, mais après, tu te rends compte, quand tu vois ce qu'ils font, que vraiment, ils ne sont pas forcément compris ce dont tu parlais. Ça, c'est un exemple classique. Ou un autre exemple, même aux US, sans être si exotique que ça, tu es awesome, brillant, c'est magnifique, mais finalement, l'état de santé du partenariat, il n'est pas peut-être aussi bon qu'il paraît. Voilà, les niveaux de politesse, en Asie, où il y a certains pays où sont moins décontractés que par exemple que nous, donc il faut quand même faire un peu attention au code de la politesse et tout ça. Bon, ce sont des petites choses, non, que il faut bien avoir en tête quand on parle avec des interlocuteurs un peu avec des codes différents, quoi.
Effectivement, je pense qu'il y a ce code culturel qui est important à intégrer. Surtout, Carlos, toi, c'est des voyages et je pense que les clients, ils ont certaines attentes, ils payent un prix pour effectivement avoir une prestation. Et si effectivement tes partenaires disent oui à tout, tu sais pas avec quoi tu te retrouves à la fin, quoi. C'est si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. Chez Spix, nous on est une entreprise allemande, donc effectivement c'est culturellement très allemand. Je vais prendre un exemple assez simple, c'est que cet été ils comprennent pas que les gens s'arrêtent de travailler en France, par exemple. Ils comprennent pas qu'en août on va prendre des vacances, nous Français, et notre réputation légendaire à l'international. Mais ça peut être également aussi des process de fonctionnement. Moi, aujourd'hui, je travaille surtout avec l'Europe, et ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment une différence nord-sud entre l'aspect, on va dire, anglo-saxon et l'aspect latin, où effectivement la manière de travailler et la manière de compréhension des choses va être différente. Un projet va être beaucoup plus cadré et processé, je pense, lorsqu'il va être géré par un pays anglo-saxon plutôt qu'un pays latin. Est-ce que c'est bien ou mal? Je porte pas de jugement puisque les deux fonctionnent très bien, mais voilà, il faut savoir s'adapter à ces défis interculturels et proposer une réponse qui est en adéquation avec la culture du pays. Je pense, c'est tout le challenge de travailler à l'international, de gérer un portefeuille de comptes qui justement peut être multiculturel. J'irai même plus loin. Dans mon cas, c'est que dans le B2B, c'est que il y a aussi une culture d'entreprise qui est importante, qui est forcément fortement ancrée par le biais du pays dans lequel elle existe, mais également sa propre culture d'entreprise qui va influencer sur la manière de travailler avec ces entités, ces organisations.
C'est hyper intéressant là, les deux cas de figure que vous listez, et merci aussi pour les exemples concrets, parce que ce que je comprends bien, c'est que toi, Carlos, même si il existe pas mal de littérature sur toute la partie interculturelle, toi, tu le ressens véritablement et tu vas devoir véritablement t'adapter à tes clients pour qu'ils comprennent vraiment ton message et que tu aies finalement sur la marketplace une offre qui soit la même, enfin, c'est-à-dire qu'il y ait la même nomenclature pour tous les clients B2C, malgré toutes ces différences interculturelles sur le terrain, on va dire. Alors que toi, Clément, tu as parlé beaucoup de culture d'entreprise, notamment allemande, concernant Spix. Et là, tu vas devoir aussi faire un peu le traducteur, sans mauvais jeu de mots, sur tous les différents clients et tous les différents marchés pour qu'ils comprennent tous la même chose.
Tout à fait, tout à fait.
Et alors, du coup, comment ça se traduit, ça? Comment au niveau account management et plus précisément au niveau de vos KPI, comment est-ce que vous allez vous assurer de la qualité de vos actions à distance, parce que finalement vous avez chacun des enjeux et vous pouvez, vous êtes obligé de les gérer à distance pour atteindre vos objets.
Finalement, oui, c'est vrai que même si c'est très différent selon les partenaires, finalement les KPI niveau macro, on a plus ou moins les mêmes pour tous. Hein. Finalement, le volume de chiffre d'affaires que tu génères, que les partenaires génèrent sur la plateforme, et toi, les satisfactions vis-à-vis des clients et des voyageurs, le niveau d'engagement avec notre offre de produits, bah, tout ça, ce sont des indicateurs clés qui vont être plus ou moins les mêmes pour chaque partenaire, pour chaque destination. Après, si bien que c'est vrai que, par exemple, selon la région, par exemple, il y a des indicateurs plutôt intermédiaires qui vont être très différents selon la région. Bah, je pense que, par exemple, en Afrique, on a des voyages normalement à des paniers moyens très, très, très élevés. Normalement, ce sont des voyages assez chers. Et du coup, cet indicateur, un indicateur de panier moyen va être différent selon la région. Ou je pense, par exemple, à des destinations très concurrentielles. Ou pour nous, il y a un indicateur, par exemple, c'est important, qui est lead to sale. Bah, dans des destinations où il y a beaucoup de concurrents, c'est normal qu'il soit un peu plus faible que dans des autres destinations où finalement on est un peu le seul provider. Quoi. Donc voilà, finalement, les indicateurs macro, les mêmes, les indicateurs plutôt intermédiaires, peut-être qu'ils diffèrent un peu. Quoi.
Oui, alors là pareil, je pense que on va avoir une manière de fonctionner qui est différente, puisqu'effectivement nous on va être les seuls, on va dire, à fournir le service au client final. Néanmoins, on travaille finalement avec des partenaires parce que on reste sur un monde où on forme des gens pour qu'ils acquièrent des compétences et qu'ils puissent finalement mieux communiquer. En anglais, par exemple, 90% des demandes, finalement, c'est pour apprendre l'anglais, et il y a vraiment un défi pour que les entreprises, travaillent mieux, collaborent mieux. Ça peut être lié à des acheteurs, à la logistique. Il y a plein de cas concrets. Et finalement, nos interlocuteurs, ça va être les responsables formation. Donc c'est eux qui vont finalement, aider les collaborateurs à mieux se former. Donc, finalement, c'est aussi leurs clients, puisqu'ils doivent répondre à leurs exigences. Et en choisissant un partenaire comme Spix, justement, ils répondent à un besoin qui est, va dire, exprimé par un collaborateur. Donc, le premier KPI, ça va être finalement la satisfaction des personnes qui utilisent notre outil. La deuxième, ça va être également de permettre de justement avoir un taux d'utilisation de l'outil via des dashboards, mais également la progression d'une langue, de passer d'un niveau B1 à un niveau B2 par exemple. Donc ça va être là-dessus que les clients vont nous juger. Bien évidemment, en interne, l'autre jugement, ça va être le chiffre d'affaires, où on a un volume d'affaires à faire par année. Et cela va se matérialiser par des contrats avec des clients des grands groupes, mais également aussi de ce que j'appelle de l'upsell, ce qui c'est-à-dire de grossir la taille du portefeuille au sein d'un même client existant.
Donc là, si je comprends bien, là, Clément, toi, tu vas vraiment t'appuyer sur le responsable formation. Donc c'est un peu le sponsor en local dans chacun des pays, c'est ça ?
C'est ça. Pour moi, lui, il est vraiment il va évangéliser notre solution auprès des apprenants directement et moi je travaille en binôme en tout cas avec un customer success manager qui lui va vraiment être là pour répondre à toutes les demandes des responsables formation. Donc là vraiment on travaille vraiment donc on est un point unique avec une personne unique qui elle va avoir plusieurs interlocuteurs pour justement pouvoir remonter les problèmes et justement que nous on puisse intervenir et l'accompagner sur ces problématiques.
Ouais, c'est beaucoup plus pratique pour toi aussi d'avoir un interlocuteur unique, quoi. Tu
c'est plus efficace.
Ouais,
plus efficace aussi.
Nous, on a ça un peu aussi chez Vaneos avec les agences. Normalement, des fois, une agence, il y a un manager ou un responsable B2C. Et après, il y a différents agents de voyage qui, eux, parlent avec les clients, quoi. Donc, des fois, pour nous, on s'appuie dans un relais managérial, peut-être, et après, pour déployer après la.
Et toi aussi, tu as un KPI lié à la satisfaction, Carlos, ou pas?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour nous, la satisfaction client, la satisfaction du voyageur, c'est clé, c'est très important. C'est à partir de là qu'on va définir après, la supply et les partenaires qu'on a sur le site. On a, bien sûr, de satisfaction client et aussi de satisfaction. On va écouter aussi nos partenaires Notre objectif, c'est que aussi eux soient contents dans la plateforme, qu'ils se retrouvent et que du coup, ils continuent à grandir avec nous, quoi.
Ouais, parce que c'est ça finalement le challenge. Parce que toi, Carlos, tu vas être objectivé aussi, comme on disait là, à l'instant, sur la satisfaction B2C de personnes qui potentiellement ne sont ni de ta nationalité à toi, ni de la nationalité de l'agence en local, puisqu'ils veulent voyager. Hein. Et toi, Clément, de la même façon. Tu vas être, si j'ai bien compris, objectivé sur le taux de satisfaction des collaborateurs qui sont dans un pays potentiellement voilà, n'est pas la France et des collaborateurs qui potentiellement sont dans un autre pays aussi que ton sponsor, j'imagine, puisque le responsable formation, c'est un responsable global, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'ai un cas client où justement on va avoir un responsable formation qui va piloter l'ensemble des formations, mais il va avoir un référent sur chaque zone, sur la zone APAC, Asie, Pacifique, Australie, quelqu'un sur l'IMEA et quelqu'un sur les Amériques. Et donc, du coup, son but, c'est de justement, grâce à travers nos discussions, de le remonter, de le redescendre à ses interlocuteurs.
Et comment est-ce que tu t'assures, du coup, de l'homogénéité du message qui est passé de toi au sponsor et ensuite du sponsor au collaborateur? Et comment toi, Carlos, tu vas t'assurer de l'homogénéité de l'offre, parce que tu vas aller récolter différents voyages sur mesure de la part des agences locales, mais peut-être qu'il y en a qui veulent fonctionner sur tel format, enfin tu vois, qui ont leur format historique et qui veulent pas forcément se plier au cahier des charges Evaneos, par exemple. Donc ça m'intéresse d'avoir vos retours sur à la fois la partie, ce que je disais, top-down pour toi, Clément, et bottom-up pour toi, Carlos. Peut-être Clément, si tu veux commencer.
Top-down, alors moi, ça va être vraiment par le biais d'outils de business intelligence, en fait. Hein. Ça va être vraiment des données. Donc, ça va être dès qu'un utilisateur va se connecter à la plateforme, nous, on va être au courant. On va savoir ce qu'il va étudier. Quand on reçoit une demande d'inscription, on va le savoir. On va savoir d'où il vient, etc. Et nous, ça nous permet de faire des statistiques au niveau macro. Mais on peut aller dans les détails et on peut justement dire, bah, sur cette zone, il y a un problème. On va le remonter à la personne centrale qui va justement investiguer et avoir cet accès de manière locale. Il faut savoir que lorsque on va intervenir au niveau local, lorsqu'un collaborateur va justement, lorsqu'il va y avoir un projet local. Donc là, on va vraiment focaliser sur ce point d'attention et justement intervenir sur localement, puisque c'est là où il faut qu'on finalement on déploie nos forces. Je pense que c'est pareil pour Carlos. Il y a des zones qui sont forcément plus dynamique que d'autres et qu'il y a un peu cet instinct d'un account manager en nous qui nous dit on couvre une zone globale, mais on va se focaliser sur une zone plus profitable qu'une autre pour justement maximiser finalement notre chiffre d'affaires. Et je pense que c'est aussi la beauté de notre métier, c'est de flairer les bons coups et les trouver les bons partenaires pour Carlos. Je pense que c'est ça qui est important.
Ouais, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec la partie outillage, quoi. Pour moi, je crois qu'un partenaire chez Vaneos, une agence de voyage, il a une liberté assez grande pour mettre en place une offre comme il souhaite ou avoir un approach client assez particulier, quoi. Ils sont assez libres parce que finalement, sont eux qui vont vendre. Nous, finalement, on est juste la place de marché, un enabler, non? Par contre, en échange, en revanche, ce qu'on essaie de pousser, c'est qu'ils utilisent les outils, quoi. Et les outils, l'utilisation de nos outils nous permet d'avoir la data et nous permet de savoir qu'est-ce qui est en train de passer. Donc, pour nous, ce qui est la façon un peu de voir l'état de santé de chaque agence, la qualité du produit qu'ils sont en train de fournir, la qualité d'échange qu'ils sont en train d'avoir avec les clients, la façon de voir ça et de monitorer ça, ça peut juste arriver s'ils utilisent nos outils. Et du coup, c'est extrêmement important qu'ils les fassent, quoi. Et du coup, on va passer beaucoup de temps à les onboarder sur nos outils, sur notre suite produit, pour qu'ils fassent ça, quoi. Pour que vraiment les outils aussi répondent à ces besoins de façon qu'ils l'utilisent, quoi. Pour qu'ils l'utilisent.
Et plus il utilise l'outil et plus il va être visible, j'imagine. Peut-être ça va aussi avoir une répercussion sur le CA.
Plus il utilise l'outil, plus ils vont pouvoir être accompagnés. Les mieux vont être ses voyages, les plus contents vont être ses clients. Et du coup, les plus de leads ils vont recevoir. Et c'est un boule assez positif, quoi.
J'ai bien aimé ce que tu avais dit tout à l'heure, Clément, sur la partie problème, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut aborder en tant qu'account manager. Quand tu as dit, voilà, quand tout roule, entre guillemets, bah, c'est OK niveau global, mais par contre, quand il y a quelque chose à creuser, on va aller voir localement. Et pour justement rebondir sur ce sujet, est-ce que vous allez sur place voir vos clients? Comment ça se passe? Est-ce que c'est systématique? Oui, non? Parce que ça, c'est un dream job, hein, les gars.
On ne peut pas ignorer ce qui s'est passé les trois derniers mois, hein, et les mesures sanitaires qu'on devait prendre. Donc, je te mentirais si je te dis que j'avais vu un seul client depuis que j'ai commencé chez Spix.
Depuis que tu n'es pas chez Sechos.
Depuis que chez Spix. C'est une bonne idée pour faire de la com. C'est merci. Moi je pense que c'est la taille du contrat et l'investissement du client qui va finalement nous déterminer si on se déplace ou pas. Je pense que en France c'est facile de se déplacer. Il y a le train, il y a le métro et d'ailleurs, principalement, on est dans un pays très centralisé où la majorité des grandes entreprises vont être à Paris. Donc, c'est assez facile de prendre un rendez-vous et d'y aller. Lorsqu'il s'agit d'un contact à l'étranger, on va se poser la question de la taille et l'opportunité qui va en découler de ce rendez-vous. Donc, mon threshold, ça va être au moins 50 000 euros pour me dire je vais me déplacer là-bas parce que derrière on peut concrétiser une affaire à 50 000 euros.
Et toi, Carlos, qui a connu du coup ce métier avant le Covid, comment c'était?
Ouais, non, mais c'est sûr que pour nous, pour Evaneos, pour comprendre un peu le contexte, les conditions de travail de nos partenaires, c'était très très très, très important d'aller les voir, observer. Comment ils font dans leur quotidien, comment ils font pour parler avec nos voyageurs, avec les clients, etc. Donc, c'est vrai que, par exemple, un account manager chez Vaneos, peut-être qu'il allait voir ses agences ou dans ses régions deux fois par an, plus ou moins. Mais les learnings que tu jettes de ça sont très forts, quoi. Moi, par exemple, quand j'étais à Cuba et du coup, j'ai vu quelques partenaires là-bas et du coup, C'était super agréablement surpris et j'étais assez étonné par la qualité de travail qu'ils sont capables de fournir, c'est-à-dire la qualité de la professionnalité qu'ils ont, alors que franchement, les conditions de travail sont assez difficiles, hein, dans le sens que la connexion à Internet, elle est nulle, alors vraiment faible. À Laval, il y avait des pannes d'électricité presque tous les jours. Donc, pas d'électricité, sans ordinateur, pas d'Internet, tout ça. Mais quand même, les partenaires sont là pour répondre aux clients, être réactifs, proposer des belles voyages. Voilà. Donc, avoir un bon service client. Quoi. Donc, pour voir ça, bah, depuis Paris, tu ne te rends pas trop compte de la réalité, quoi, si tu ne vas pas les voir. Quoi.
Ouais, et puis ça sert à rien de s'agacer si t'as pas répondu dans la minute, c'est que potentiellement
exact.
Il a pas encore reçu le mail ou quoi que ce
exact.
Soit.
Exact. Si tu veux comprendre, c'est nécessaire de voir ça in situ, quoi, hein. De voir ça.
Ouais, non, mais ça rejoint ce qu'on disait au début avec toute la partie interculturelle. Voilà, il y a pas mal de littérature, on a de la théorie sur telle nationalité qui fonctionne plus comme ci, comme ça. Mais encore une fois, pour être vraiment sûr des méthodes de travail dans le cadre de votre métier d'account manager, c'est important d'aller sur place ou du moins comme Clément, voilà, d'avoir des relations très proches pour savoir exactement comment chacun fonctionne.
Oui.
Je voudrais peut-être faire un mini point sur l'actu Covid. Je voulais savoir un peu quel impact ça a eu sur les différentes industries et surtout, pas tant sur les industries parce qu'on s'en doute, mais surtout vous, dans votre quotidien d'account manager, qu'est-ce que ça a changé?
Ouais, bah, alors, par exemple, ouais, je peux répondre. Bah, le marché du tourisme, il a été très fortement impacté. C'est peut-être une des industries les plus impactées avec la crise du Covid. Bah, nous, chez Vaneos, la plupart des destinations, ils ont été fermées pendant des mois. Donc, finalement, on peut pas opérer des voyages parce que les pays sont fermés, quoi. Après, on pense aussi que le Covid, c'est en train d'accélérer une tendance qui existait peut-être déjà, de peut-être voyager moins, mais voyager plus avec du sens, c'est-à-dire aller trouver, avoir un bon impact, un impact positif de ton voyage, bah, en contribuant, par exemple, dans l'économie locale, en faisant des rencontres de populations locales, que ton voyage soit plus authentique. Et du coup, là, Vaneos est quand même très, 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 très bien placé, donc on est en train d'un peu de se préparer pour ça, hein, pour cette next step. Et comme tu disais, par rapport à notre quotidien, bah, moi, c'était un énorme shift. Énorme shift parce qu'il faut penser que moi, par exemple, j'étais surtout grosso modo, j'étais surtout dans la partie management de la croissance, du growth. Moi, j'ai travaillé, par exemple, à fin 2019, beaucoup à aider nos agences à recruter d'agents de voyage pour croître avec nous. Et du coup, on shift complètement d'une tendance super positive de growth avec Evaneos à une tendance de crisis management. Donc, voilà, tout s'est renversé. Donc, voilà, pour moi, énorme shift. On passe, voilà. Du coup, on a beaucoup travaillé dans les customer care, quoi. Dans la partie, beaucoup de services clients. On a fait des webinars. Des outils de management, on a sorti des outils de management spécifiques pour la crise. On essaye de leur donner visibilité de ce qui se passe en Europe, parce que des fois, ils ne savent pas non plus. Ils sont, par exemple, à Cuba, comme on disait, ils ne sont pas forcément super au courant de ce qui se passe, de quand est-ce qu'ils vont recevoir des voyageurs, quand est-ce que la frontière en Europe va être ouverte. Du coup, on essaye aussi de leur partager ça, donner de la visibilité sur ce qui se passe en Europe, partager des idées par rapport au futur de l'industrie, etc. Leur donner des outils de compréhension, finalement.
Bah, nous, de notre côté, vraiment, on offre une solution digitale. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de se déplacer pour faire un cours de langue. Donc, on n'a pas été impacté, on va dire, directement. Néanmoins, les grandes entreprises ont pris presque toute la décision de geler leur budget. Donc on a pour les soutenir et pour accompagner les entreprises, on a répondu exactement à la formule former plutôt que licencier. Et du coup, à travers ça, on a mis à disposition gratuitement notre plateforme de formation aux entreprises qui voulaient. Donc, on customisait les contenus et la manière d'accéder à la plateforme pour chaque entreprise qui souhaitait former gratuitement l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, par exemple, on l'a fait sur des groupes automobiles très connus français, des groupes de restauration collective, des groupes hôteliers. Le but étant justement de proposer une formation gratuite pendant l'ensemble du confinement et même encore aujourd'hui pour justement derrière, d'une part, ils adoptent notre produit et d'autre part, derrière, dire bah voilà, on était là pour vous pendant le confinement. Peut-être que on peut être un partenaire de longue durée avec vous et qu'on peut travailler ensemble prochainement, quoi. Donc le but c'était vraiment d'accompagner, d'aider comme on pouvait contribuer à cette crise. Mais d'ailleurs, il y a plein d'initiatives. Enfin voilà, hein, il y a effectivement un côté publicitaire hein, indéniable, mais il y a quand même plein d'initiatives, plein de boîtes qui ont proposé plein de choses. Et je trouve que c'est bien aussi de faire preuve de solidarité hein, en ce moment.
Carrément, bah très clair en tout cas. Donc moi, ce que j'ai noté en temps de crise en tout cas et sur la partie métier à compte manager à l'international, ça va être rassurer parce que finalement, nous on est en France et eux ils travaillent avec nous, mais ils sont pas en veille permanente ou ils ont peut-être moins d'infos que nous. Donc vraiment les rassurer, toute la partie customer care comme toi tu disais Carlos, et leur apporter de la valeur. Surtout leur apporter de la valeur, comme tu disais Clément. Ouais. Donc, je pense que c'est deux indicateurs clés. Ok, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé votre expérience. Ça donne envie de voyager. Et puis, bah en tout cas, j'espère vous dire à très vite si vous n'êtes pas sur la route.
Merci beaucoup.
Merci Darina. Bonne
journée. Ciao.
Merci. Ciao. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again.